Alors Chloé, tu es écologue, une spécialité encore rare dans les ONG, voire à ma connaissance, je crois que tu es la seule écologue d'une ONG française. Tu me diras si je me trompe, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus en quoi ça consiste et pourquoi ACF a décidé de créer ce poste ?
Oui, alors tout d'abord, merci pour l'invitation à participer à cette émission. Je pense être la seule écologue, mais voilà, je suis pas 100% sûre dans une ONG humanitaire française. En tout cas, oui, donc le mandat d'ACF, c'est de lutter contre la faim et ses causes profondes. Et donc dans les causes profondes, il y a notamment le changement climatique. Donc au niveau opérationnel, les effets du changement climatique se sont fait ressentir de plus en plus fortement sur le terrain au cours des dernières années, principalement au travers de températures extrêmes, désertification, inondations. Et on a vu des impacts sur l'accès à l'eau, aux centres de santé, aux ressources naturelles, comme cause de conflits également, qui se répercutent sur la faim. Je pense qu'un vrai besoin d'expertise a émergé. Donc avant mon arrivée, ça venait aussi bien d'une réponse aux demandes grandissantes des bailleurs qui commençaient en tout cas à demander de respecter des standards environnementaux et de travailler sur les écosystèmes. Et au-delà de ça, je pense qu'il y avait un réel intérêt de mieux comprendre et d'intégrer les enjeux liés à la perte de la biodiversité dans nos programmes, notamment grâce à un directeur du département expertise et plaidoyer qui était sensible, je pense, à ces sujets et qui voyait bien les liens entre l'écologie et la lutte contre la faim, la sécurité alimentaire, le changement climatique, les maladies notamment. Donc voilà, donc c'est ainsi que mon rôle s'est créé. C'est un rôle transverse qui consiste à accompagner les équipes afin qu'ils prennent mieux en compte la biodiversité, les écosystèmes, qu'ils soient adaptés au changement climatique et qu'ils atténuent également les impacts négatifs sur l'environnement. Je me suis rendu compte que ma vision d'écologue tendait à faire ressortir des liens un petit peu partout. Et donc, j'essaye dans mon travail de montrer ces liens, de les expliquer, pour montrer les liens entre notamment les différents impacts et leurs conséquences, pour aborder les enjeux auxquels nous sommes confrontés de manière plus holistique. Alors, ça va être principalement en organisant des ateliers de brainstorming avec nos bureaux pays, en les aidant aussi à écrire des propositions de financement, en animant un groupe de travail au sein d'Action contre la faim pour élaborer une approche écosystémique, une vision stratégique, disons, et également en formant nos équipes aussi bien au siège que sur le terrain sur la thématique enviroclimat, par exemple en parlant des nouvelles approches pour eux, comme les solutions fondées sur la nature ou la santé planétaire, et enfin en essayant de créer de nouveaux partenariats.
Et du coup, dans ton article, tu parles de votre approche qui combine atténuation, adaptation et restauration, qui semble vraiment évidente, mais quand même assez ambitieuse. Peut-être est-ce que tu peux commencer par nous revenir un peu sur ces termes que pas mal de gens ont tendance à confondre, ou déjà de nous dire vraiment de quoi il s'agit, et puis ensuite comment tout ça s'articule.
Oui, bien sûr. Alors, l'atténuation, ça va désigner l'ensemble des actions qui visent à réduire les causes du changement climatique, principalement en diminuant les émissions de gaz à effet de serre ou en augmentant la séquestration du carbone, les puits de carbone. Donc, ça va s'apparenter, je pense, dans les actions humanitaires, à la base, à faire, par exemple, un calcul du bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour voir comment réduire l'empreinte carbone, en améliorant, par exemple, notre efficacité énergétique, installant des panneaux solaires. Et ensuite, pour la partie séquestration, ça peut être au travers d'activités de reboisement. Pour l'adaptation, ça va faire référence aux mesures prises pour s'ajuster aux effets actuels ou anticipés du changement climatique, afin de réduire les vulnérabilités, limiter les dommages, donc par exemple au travers de pratiques agricoles plus adaptées aux conditions environnementales, en construisant des digues idéalement végétalisées ou des zones humides pour lutter contre la montée du niveau de la mer.
On va avoir des projets qui sont vraiment adaptés au contexte.
C'est ça, et il y a aussi un aspect de préparation et d'anticipation. Donc ça va s'inscrire dans les actions anticipatoires également qui émergent beaucoup dans les contextes humanitaires. Donc il y a ce côté aussi prévention avec l'adaptation. Et enfin, il y a le volet restauration qui consiste à remettre en état un écosystème dégradé en visant à retrouver ses fonctions écologiques, sa biodiversité et les services écosystémiques qu'il procure. Donc, par exemple, là, on va parler de planter des arbres, restaurer la mangrove, gérer des espèces envahissantes, etc. Pour nous, dans l'article que nous avons écrit avec mes collègues, on voit vraiment ces trois catégories, disons, d'activités comme un continuum
Oui, qui doit vraiment s'imbriquer ou s'articuler.
Exactement. Donc, on voit qu'on ne peut pas considérer, enfin, on trouve qu'on ne peut pas considérer être acteur du changement climatique sans, en traitant par exemple que l'atténuation, sans traiter de l'adaptation ou de la restauration. C'est notre vision.
Oui, ce qui semble assez logique, mais pas facile, j'imagine. Mais...
Oui, exactement. Et c'est logique. Et en fait, quand on commence à avoir les choses comme ça, on voit que c'est vraiment des catégories qui s'articulent entre elles et qui, souvent, une activité va tomber aussi bien dans la catégorie atténuation que adaptation ou que restauration.
Oui, ou aura un impact sur une autre activité.
Exactement. Dans le numéro spécial, on voit que les différents articles traitent parfois de certains aspects plus que d'autres, mais tout en mentionnant cette articulation entre ces différentes catégories d'activités et la restauration, qui peut sembler peut-être un peu plus éloignée du secteur humanitaire, est également mentionnée par d'autres auteurs d'un article de cette édition spéciale. Je pense à l'article de Joël Moudieu et Vincent Abaga au Cameroun, qui souligne particulièrement l'importance en fait, du travail de restauration dans la résilience communautaire et écologique en fait. Et donc là, pour décrire un petit peu ça, on va penser à des activités comme par exemple l'agroécologie ou la restauration de la mangrove, qui j'aime bien les appeler ça des approches win-win, parce que vraiment elles vont cocher un peu toutes les cases. Elles vont atténuer nos impacts en séquestrant du carbone au travers donc de régénération des sols ou plantation d'arbres par exemple. Elles vont nous permettre de nous adapter en utilisant des semences mieux adaptées, moins d'intrants, et également, par exemple, avec la mangrove, en protégeant les côtes des tempêtes et de la montée des océans. Et bien sûr, elles vont permettre de restaurer l'écosystème. Donc là, on a vraiment des approches résilientes et durables.
Et avec tes co-auteurs, vous défendez aussi l'idée d'un nouvel humanisme qui intègre l'humain et les écosystèmes. Mais concrètement, comment cette vision transforme, ou du moins pourrait transformer, les interventions sur le terrain, notamment dans les contextes d'urgence?
Oui, alors je pense que ce n'est pas un concept entièrement nouveau. On retrace un petit peu dans l'article l'historique de l'humanitaire, de l'humanisme, et donc ce nouvel humanisme qui apparaît plus ou moins officiellement dans les années 2010 avec un discours d'Irina Bokova qui souligne l'interdépendance entre les humains et leur environnement. Et en tout cas, dans l'humanitaire, je pense que c'est dans ces années-là que ces liens se font plus forts, aussi avec le lien avec les limites planétaires qui émergent aussi dans les années 2010. Et à ce stade, on articule beaucoup la notion d'humanitaire autour du do no harm et du coup de l'atténuation de notre impact. Mais il faut souligner que, on travaille là sur des crises chroniques et pas que dans l'urgence. Et donc, il faut admettre aussi, je pense, que l'humanitaire, c'est aussi travailler sur des crises chroniques, qu'il faut peut-être réformer un petit peu, et c'est aussi dit dans d'autres articles de cette édition, mais qu'il faut un petit peu réformer notre façon de faire les choses.
Oui, ça implique de voir les choses un peu différemment, peut-être moins en silo.
Exactement, que peut-être la vision qu'on avait précédemment est un petit peu dépassée, qu'il faut exactement travailler avec des approches intégrées, plus intégrées, moins de silos. Donc, par exemple, oui, on ne va pas pouvoir traiter des besoins humanitaires sans prendre en compte les enjeux environnementaux en termes de durabilité. Il y aura de la répétition des crises, une augmentation aussi des crises chroniques et de leurs impacts. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait cette notion du besoin des écosystèmes qui transparaissent. On en a besoin pour nous nourrir, pour boire, pour rester en bonne santé. Et donc, il faut agir pour ne pas faire plus de dégâts, ce qu'on disait, donc atténuer et aussi adapter nos pratiques. Et aussi tenter d'avoir un impact positif sur notre environnement au travers donc de l'adaptation de nos pratiques et de la restauration. Donc ça va se faire notamment aussi au travers de la localisation de l'aide et des savoirs, dont j'imagine on va reparler. Et voilà. Et donc c'est vraiment des notions plus intégrées, plus globales, qui ressortent aussi du côté des organisations environnementales, qui elles aussi désiloïsent, disons, ces concepts, en parlant de nexus entre alimentation, biodiversité, climat, eau et santé, beaucoup de santé planétaire. L'agrobiodiversité prend aussi le devant de la scène dans les grandes instances internationales. Donc voilà, c'est quelque chose qui ressort, et je pense que historiquement, que ce soit dans les programmes environnementaux ou humanitaires, ils ne fonctionnaient pas forcément parce qu'on ne prenait pas bien en compte l'autre côté, disons, Et donc là, je trouve qu'il y a vraiment un désir de mieux travailler ensemble et voilà.
D'accord. Et du coup, moi, j'aime bien avoir des exemples un peu concrets. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples de programmes que vous faites sur le terrain?
Oui, alors je reviens à mes exemples un peu chouchou win-win là. mais par exemple, on a un projet au Zimbabwe qui s'appelle Farming with Alternative Pollinators, où on a pu montrer qu'en diversifiant des cultures agricoles autour de parcelles, plutôt qu'en pratiquant la monoculture, c'était un projet de recherche vraiment où on comparait les deux, eh bien, le nombre de pollinisateurs sauvages augmentait grâce à une plus grande variété florale. Cette hausse de pollinisateurs a entraîné une augmentation des rendements et des revenus des agriculteurs. Donc c'était une approche simple, petite échelle par rapport à c'est des petits producteurs, mais très efficace aussi bien pour améliorer la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, la nutrition et également le retour de la biodiversité. Pareillement, on va avoir un projet sur la mangrove en Sierra Leone où la mangrove qui joue un rôle clé pour les communautés locales en fournissant du bois de chauffe, des matériaux de construction et des ressources marines, bah, sert également de barrière, comme on le disait, contre les tempêtes et limite l'érosion côtière. Et donc, la préserver, c'est essentiel. Et ces projets, parfois, échouent par manque d'implication des communautés locales dans le suivi, dans la mise en œuvre du programme. Et donc là, on a essayé de faire une recherche qui met l'accent sur l'engagement communautaire, sur la valorisation de ce qu'on appelle une solution fondée sur la nature, comme celle-ci, donc, qui mêle l'écologique et le social. Et, voilà, et sur les systèmes d'alerte précoce également. Donc ça permet, on espère, de faire une mise à l'échelle plus durable.
Et donc dans l'article, vous évoquez aussi certains acteurs comme ce que tu nommes moteur de changement. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez par exemple du... Enfin, est-ce qu'il y aurait un partenariat à développer spécifiquement avec des ONG qui sont purement environnementales par rapport à tout ça ou avec d'autres types d'acteurs qui ne sont pas du secteur humanitaire du coup?
Oui, je pense que c'est très important et ça va sans doute le devenir encore plus avec les changements actuels dont tu as parlé au début. Bon, moi, personnellement, j'ai choisi avec ce rôle de m'impliquer dans des groupes de travail, notamment dans un groupe de travail de l'UICN, qui est l'Union internationale de conservation de la nature, qui est sur les pays en développement et la biodiversité. Et bien sûr, la plupart des participants hein, sont un petit peu plus axés environnement, conservation qu'humanitaire. Et ils nous ont vraiment accueillis à bras ouverts. Ils sont ravis de nous voir dans ces cercles parce qu'eux-mêmes sont conscients de certaines limites dans leur travail où ils aimeraient bien avoir notre expertise. Et donc nous-mêmes, on sait aussi où sont nos limites. Donc par exemple, sur les sujets de conservation, je pense que les organisations de conservation sont, je dirais, vraiment, enfin, généralement bien au point sur des secteurs comme la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, les approches communautaires. Hein, ça, c'est des choses sur lesquelles ils travaillent depuis longtemps. Mais par contre, parfois, sur d'autres sujets comme la santé, la nutrition, la WASH, va y avoir un petit peu moins d'expertise. Parfois, ça va être aussi le fait qu'ils vont travailler dans des zones qui sont plus proches de hotspots de biodiversité, mais peut-être moins dans d'autres zones rurales où nous, on va travailler et où il y a aussi, bien sûr, un contact fort avec la nature. Et voilà. Et donc, j'espère qu'on peut, en tout cas, en travaillant ensemble, permettre de faire des programmes qui fonctionnent mieux.
Oui, vous avez vraiment des approches, des expertises complémentaires.
Exactement. On a des approches complémentaires qui demandent qu'on travaille ensemble, qu'on échange, qu'on collabore. Et donc voilà, et donc ensuite, bien sûr, il y a d'autres types de partenariats qui peuvent se faire et de participation à d'autres groupes de travail sur l'adaptation. J'ai l'acronyme en anglais Disaster Risk Reduction, donc la réduction des risques des catastrophes, c'est ça. Aussi avec des acteurs comme le Partenariat français sur l'eau qui travaillent aussi sur la biodiversité, sur les solutions fondées sur la nature. Voilà.
Oui, après, il y a des sujets spécifiques et des alliances.
Exactement. Et je mentionne aussi le REH, qui est le réseau environnement humanitaire, où là, on va travailler un petit peu plus sur les questions d'atténuation. Donc voilà, c'est vraiment complémentaire. Je pense que c'est important d'essayer de s'impliquer dans tous ces différents groupes de travail, de travailler avec tous ces différents partenaires, de leur tendre la main.